Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies and Gentlemen, guten Abend, bonsoir, good evening, wie geht's? Do you feel good? Comment ça va? Bien! Bon!
Bonsoir à toi qui nous écoute de l'autre côté des ondes que nous émettons. Et il est 22h et quelques, et normalement 23h avant le changement d'heure, donc on est crevé évidemment. Je plaisante.
Qu'est-ce qu'il dit ?
Bah, c'était 23h, on a reculé d'une heure. Bah ouais, non mais suivez, ouais, c'était un week-end, on a changé d'heure. Voilà.
Ouais, okay.
Bon, c'est la causerie, et ce soir il y a Clara à la technique.
Bonsoir.
Jean-Yves qui est là aussi.
Bonsoir et Fab.
Qui essaie de faire une ouverture blagounette, qui est tombée totalement à l'eau. Voilà. Et c'est ce qu'on appelle de l'humour de merde. Et donc voilà. Donc si tu veux nous joindre, c'est lacauseriecanu@gmail.com. Lacauseriecanu@gmail.com. Si tu veux réécouter les 497 émissions précédentes, c'est blogs avec un s.lacauserie.org. Non. Blogs avec un s.radiocanu.org/lacauserie. J'ai un son tout bizarre hein, dans mon casque. Donc j'espère que vous avez un son normal. Et voilà, donc c'est donc blogs.radiocanu.org/lacauserie. Et sinon, tu nous trouves sur tous les podcasts et autres à La Causerie Canu. Voilà, et sinon, on est aussi sur Facebook, mais on ne fait que bah, du commercial. Parce que c'est un réseau socio-commercial. Mais on n'a rien à gagner. En fait, on n'a rien à vendre. On se fait connaître, quoi.
C'est
sinon,
ça.
Merci à toi qui nous a demandé des autocollants.
Antoine.
Antoine, voilà, j'avais perdu ton prénom. Et on va t'envoyer ça dans la semaine. Tu auras ça rapidement. Merci, c'était cool. Et si toi, tu en veux aussi, tu envoies ton adresse à lacauseriecanu@gmail.com. Ton adresse postale. Voilà. Et j'ai vraiment un son très bizarre dans mon casque,
oui.
Mais c'est pas grave.
C'est un son de radio, quoi.
Ouais, ouais.
Ok, je crois qu'on a tout rappelé. Ouais, balle de diffusion aussi, tu as dit.
Ouais,
c'est ça, podcast.
Moi, je parle anglais.
Ouais, excuse me. Excuse my French.
Excuse my French. Il l'a fait avant moi.
C'est bateau de merde ce soir.
On y va.
La soirée va être longue.
Vous voyez pas la tête de Clara, mais ouais.
Clara, elle sort des panneaux, elle dit arrêtez, continuez à avancer plus vite.
Non, mais je vais couper le micro au bout d'un moment.
Mets de la musique. On va commencer tout de suite et c'est Fab, on va parler science.
Ouais, parce que moi, je vous avoue que ce soir, j'avais envie de parler d'autre chose que des horreurs du monde. Parce que voilà, j'avais envie un petit peu qu'on s'aère, parce que je sature un peu moi-même de tout ça, et au bout d'un moment, je me suis dit, on va pas remettre une couche un dimanche soir, même si on y reviendra, hein, j'en suis sûr. Là, j'ai juste envie de parler de découvertes et de trucs un peu fous qu'a permis en 2 ans d'activité le télescope James Webb. Alors, j'en ai déjà parlé hein, de ce télescope dans la causerie 424 et 478, parce que je suis quelqu'un de très régulier, je vous avais dit qu'on y reviendrait régulièrement, et on y revient tous les ans.
Voilà. Régulier et humble.
Ouais, humble.
Je pense que c'est bien de le dire.
Voilà.
Allez, on se reprend. Allez.
Bon, et donc voilà. Donc l'idée, c'était d'aller faire un petit tour du côté de James Webb, le télescope, et de se changer un peu d'air, ce qui est un peu compliqué quand on va dans l'espace. Ça, c'est une spéciale dédicace à Georges. Alors, des découvertes majeures et quand même pas mal de remises en question ont eu lieu ces derniers temps. Ce qui d'ailleurs a le plus surpris les scientifiques, c'est déjà que James Webb, le télescope, fonctionne sans souci. Et voilà, et qu'il fasse des choses au-delà de ce qu'on pensait qu'il pouvait faire. Et ça, c'est quand même plutôt étonnant. Et donc, depuis 2 ans, il fournit des données précieuses et plus qu'intéressantes. Et d'ailleurs, comme l'a dit un scientifique, ça démontre que lorsque l'on travaille de façon internationale, sans se tirer la bourre et sans chercher à savoir qui c'est qui a raison, eh ben, ça marche vachement mieux que quand on est là à se dire, bah, c'est l'Europe ou les États-Unis ou la Chine ou machin.
Genre l'entraide, enfin tout ouais. ça marche mieux que
genre
la compétition.
Faire un truc vraiment scientifique.
C'est fou. Hein.
Donc les découvertes s'enchaînent et elles remettent certaines choses en question. Par exemple, on a découvert que ce que l'on imaginait pour la création des galaxies, bah c'était pas vrai dans tous les cas. Mmh. Voilà. Et ça va permettre de revoir les lois scientifiques qui sont en fait des théories, parce qu'on dit souvent loi, mais en réalité c'est des théories scientifiques les plus crédibles, hein, c'est-à-dire ce qu'on appelle une loi, c'est la théorie la plus crédible et la plus démontrée. Mmh. Voilà. Et donc, elles sont révisables, vu que c'est des théories, par principe.
Vous voyez oui, voilà, c'est l'inverse d'un dogme.
Ouais, c'est ça, exactement. ça a l'air de rien, mais c'est d'une importance faite capitale pour comprendre comment l'univers fonctionne, mais aussi pour des applications plus concrètes dans les sciences sur notre planète. Parce qu'en fait, quand on découvre quelque chose à l'échelle très grand, et ben souvent à l'échelle très petit, ça se répète, mais pas toujours. Mais voilà, mais ça peut permettre en fait de découvrir des nouvelles choses. Cette découverte, elle n'est pas la seule. Il y a d'ailleurs des images d'une beauté folle qui ont été faites, comme on le disait, de nos astres les plus proches. Mais au-delà, ouais.
Non mais vraiment, enfin, je vous invite vraiment. Si vous êtes comme moi, pas très balèze en sciences, voire carrément naze, bah satisfaisez-vous déjà des super. Mais des images qui sont sorties sont absolument sublimes, vraiment.
Découvrir que Jupiter a du bleu, par exemple.
On
l'imaginait pas, mais il y a du bleu sur Jupiter. Ouais.
C'est vraiment très beau.
Mais au-delà de ça, en fait, il y a maintenant des milliers d'images du présent et du passé de plein de phénomènes. Oui, parce que James Webb, il remplit à plein sa fonction, hein, ce télescope, de machine à remonter le temps. Je vais y arriver. Et cela, ça aide vraiment à comprendre ce qu'a pu être le Big Bang, par exemple. Oui, parce que, je vous rappelle, plus on regarde loin, et plus on remonte dans le temps. Ça paraît bizarre, mais c'est comme ça. Alors, je vous laisse vous ramener aux émissions que Georges avait
faites. Oui, c'est ce que j'allais dire.
Oui, parce que je ne vais pas vous refaire toute l'explication. Mais en gros, plus vous pouvez voir loin, et plus vous remontez dans le temps.
On remonte le temps, en fait.
En fait, c'est ça. L'image que vous voyez, elle est plus proche du début plus proche du Big Bang. Voilà.
Pour la faire court, parce que qui nous arrive le temps de...
Bah ça met des dizaines et des milliers, des centaines de milliers d'années-lumière.
C'est ça.
Donc en fait, plus vous pouvez voir loin, plus vous remontez le temps, en fait, c'est ça. Par exemple, on sait aujourd'hui, de façon assez certaine, que 30 à 40% des étoiles que vous voyez sur Terre quand vous levez la tête sont éteintes. En réalité, mais en fait, comme la lumière a mis très longtemps à arriver, eh ben vous verrez, pas vous, ni moi d'ailleurs, parce qu'on sera mort, mais les futurs êtres vivants qu'il y aura sur la Terre relèveront la tête, ils diront tiens, il n'y a plus l'étoile là, mais en fait, elle sera peut-être éteinte depuis 4000 ans. Voilà, c'est paradoxal, mais c'est comme ça. Enfin, pas paradoxal, mais c'est dur à appréhender.
Plutôt. Oui, c'est ça.
Voilà. Et d'ailleurs, de plus en plus de scientifiques pensent du coup que le Big Bang n'était qu'un moment de l'univers. C'est-à-dire que ce n'était pas le début. Et pourrait peut-être un moment où tout a été concentré avant de partir à nouveau en expansion. C'est-à-dire que pendant très longtemps, ce qui tenait la corde, c'était l'idée d'une création première, c'est-à-dire pouf, un Big Bang et l'univers se crée. Et de plus en plus, quand on commence à remonter dans le temps, on se rend compte que on a des compressions, des choses comme ça, ou qu'on a des gaz qui ne devraient pas être présents, qui sont présents, qu'on a des formes de type presque comme la Voie lactée, c'est-à-dire que des spirales, des choses comme ça qu'on pensait voir apparaître avec le temps mais qui sont apparues très peu de temps après le Big Bang. Donc ça laisserait penser qu'elles étaient peut-être présentes dans une espèce de truc comprimé. Enfin voilà, il y a plein de on serait peut-être dans un univers cyclique, c'est-à-dire qu'en fait il s'étend. Et puis il arrête de s'étendre, il se reconcentre, et puis pouf, il réexplose, vous voyez, et puis ainsi de suite. Enfin, il respire un peu, comme dirait certains scientifiques, il dit comme une grosse respiration. Bon, respiration un peu destructrice, mais voilà, disons.
À l'échelle du truc, quoi.
Voilà, ça peut se voir comme ça. Et c'est intéressant parce qu'en fait, ce qui tenait la corde jusqu'à maintenant, c'était l'idée du Big Bang premier. Mais pourquoi? Parce que c'est ce que disent les scientifiques, parce que la plupart des scientifiques du 19e siècle, quand la théorie du Big Bang a été pensée, puis du début du 20e siècle, étaient croyants. Donc ça rejoignait quand même l'idée... j'avais envie de couper le son.
C'est Clara qui s'est endormie.
Elle a tapé le front sur le micro. Et donc ça rejoignait en fait l'idée première, pas du Dieu créateur, mais du moment premier. Oui. Et en fait, c'est un peu, et Dieu créa la lumière, vous voyez. Et donc il y a des scientifiques qui disent, bah peut-être qu'on a été influencé pendant des années par cette espèce de corpus qu'on avait tous dans la tête, parce que qu'on le veuille ou non, quand on nous raconte des fadaises depuis la naissance, et ben on finit par en croire une partie.
Oui, il en reste des traces tout le temps, quoi.
Voilà. Et donc je vais les lister quand même quelques trucs qui ont pu être découverts très récemment. Alors toutes les découvertes que je vais vous donner là, elles ont été publiées dans les 15 derniers jours. Et juste pour votre info, je vais vous en donner 3 sur 15 jours, et il y en a à peu près 3 tous les 15 jours. Mmh. En fait, le calcul depuis 2 ans du nombre de découvertes que James Webb a permis, et vous verrez que c'est juste phénoménal, enfin, il n'y a pas d'autre mot. Donc, Jupiter, on a découvert qu'elle avait une atmosphère différente de ce que l'on pensait. En observant Jupiter, donc avec James Webb, le télescope, on a pu remarquer qu'il y avait un jet stream rapide sur la planète. Alors le jet stream, vous l'en avez déjà entendu parler sur Terre. En fait, c'est un courant de jet stream rapide, c'est ce qui souffle au-dessus des nuages. C'est pour ça que les avions sur Terre, ils volent à 10 000 mètres. Parce qu'ils sont à 10 km de la Terre, généralement au-dessus de la masse nuageuse, et ils profitent de ces courants aériens très rapides qu'on appelle les jet streams. Et on ne savait pas que sur Jupiter, il y en avait. Ça va vous paraître bizarre que je vous dise ça, mais regarde, ça a une importance. Donc en fait, c'est ce jet stream qui a été découvert, il souffle à une vitesse 2 fois supérieure à celle des couches nuageuses visibles en dessous. C'est-à-dire qu'en fait, comme il n'est pas chargé de molécules, et ben, il souffle plus vite. Voilà. En gros, c'est ce qu'on a, donc je disais, ce qu'on a aussi sur Terre, et c'est pour ça que les avions, tout ça, ça, je vous rappelle pas ça. Et ce jet stream, il se déplace sur Jupiter à 515 km/h. Voilà. Et il s'étend sur plus de 4800 km et il se situe juste au-dessus de l'équateur de Jupiter. Voilà. À une altitude de 25 à 50 km au-dessus des principaux nuages. Alors là, vous me dites, à quoi ça sert de savoir ça?
Parce que, bien sûr, à quoi évidemment. Ça sert,
alors moi,
ça.
Je vous répondrai à rien.
Okay.
Non, mais dans les faits, on va être très, très clair.
On n'a pas prévu de prendre l'avion sur Jupiter.
Voilà.
Tout de suite.
Mais en fait, en réalité, ça sert à beaucoup de choses quand vous faites de la science. Parce que ça va servir en fait à comprendre comment, sur une masse aussi importante que Jupiter, c'est une énorme planète, et ben en fait, des phénomènes de vent se produisent aussi. Mmh. Or, pendant très longtemps, on a pensé que les vents violents n'apparaissaient que sur des petites planètes.
Okay.
Parce que le fait qu'elles soient petites et telluriques, c'est-à-dire dures comme la Terre, faisait que l'atmosphère a tendance à glisser, vous voyez, sur la planète plus facilement. Et donc, en fait, on disait les vents violents, en fait, ils sont plutôt sur les petites planètes. Et en fait, on se rend compte que sur Jupiter, il y a des vents encore plus violents et plus rapides sur la haute atmosphère de Jupiter. Et donc, ça remet en cause tout ce qu'on savait. Mmh. Et ces découvertes, elles ont été publiées quand même dans la revue Nature Astronomy. Hein, donc, c'est pas publié non plus, c'est relecture de relecture de relecture. Hein. Elles viennent démontrer en fait la complexité de ces phénomènes météorologiques. Et cela remet donc en cause tout ce que l'on pensait savoir sur l'atmosphère des géantes gazeuses. Mmh. La Jupiter, c'est une planète géante gazeuse. Ça n'a l'air de rien, mais en fait, c'est juste une des énigmes les plus importantes de ce siècle. Parce que ça fait des siècles, ça fait exactement depuis qu'on a découvert la tache de Jupiter, la fameuse tache rouge, qu'on se dit, comment ça marche? C'est-à-dire, pourquoi la tache, elle bouge pas beaucoup? Vous voyez, c'est un truc étrange, quoi. Pourquoi on la voit? Et pourquoi elle s'étend pas vraiment comme on voudrait? Pourquoi elle bouge du nord au sud et pas de l'est à l'ouest? Vous voyez, c'est des trucs. Et en fait, ça va comprendre comment une masse de gaz aussi importante que Jupiter, je vous rappelle, elle fait 11 fois la Terre en diamètre. Tu vois, costaud. Et du coup, comment ces masses se forment, bougent et fonctionnent, du coup, et pour comment ces fameuses taches sur Jupiter apparaissent, disparaissent, pourquoi on les voit, pourquoi on les voit pas. Et en fait, ça a l'air de rien, mais en fait, ça va nous permettre de faire des avancées en thermique des fluides. C'est-à-dire comprendre comment un fluide bouge dans une masse très importante.
Oui, c'est ça, selon son environnement, etc. aussi.
Oui, tout à fait. Ouais. Et là, vous me dites, mais ça sert à quoi? Par exemple, à explorer le fond des océans. Okay. Ah ouais, c'est paradoxal, mais oui. Parce qu'il y a des choses qu'on ne sait pas faire sous très forte pression. Or, on sait que Jupiter a une pression énorme dans son atmosphère, vu qu'elle est très grosse, très lourde, et beaucoup plus grosse que la Terre, et qu'en fait, les fluides, ils y bougent. Et donc, ça permet de comprendre comment faire, par exemple, des scaphandres pour descendre très très profond dans l'océan. Et ouais, ça, vous voyez, comme quoi, c'est pas inutile, finalement. Oui, je sais, pour plein de gens, comme je disais, ça semble inutile et ridicule, de faire ça. Sauf que, en fait, c'est du savoir et de la pensée, et surtout de la compréhension de phénomènes complexes, et que l'on peut affiner aussi sur Terre l'étude, du coup, de notre dérèglement climatique. Parce que plus on comprend comment une atmosphère complexe fonctionne, plus sur une atmosphère moins complexe, on a plus de lois pour comprendre comment ça marche. Vous voyez, c'est tout bête, mais ça sert. Voilà, non mais je le dis parce que souvent je vous le dis, des gens ils me disent ça sert à quoi? Ben en fait, le savoir par définition, ça sert à accumuler du savoir, et accumuler du savoir, ça sert à mieux comprendre le monde dans lequel on vit.
Oui, c'est ça en fait le truc, c'est que même si on peut, comme moi, ne pas forcément tout comprendre. Hein,
non mais c'est vraiment, le but, c'est pas de.
Mais c'est vraiment aussi cette logique que, en fait, si on faisait pas de recherche, de science, etc. En fait, on ferait que prier, en fait. Parce que si on ne cherche pas de la raison, du raisonnement, de la réflexion, constater, construire des théories, etc., ben en fait, ça veut dire que tu te mets dans un dogme en disant on a été créé, machin, et puis c'est fini, et puis on s'arrête là. En fait, il n'y a pas besoin de complexifier. Alors qu'en fait, le réel est complexe, en fait, quoi.
Ben c'est ça. Et surtout, plus vous arrivez à comprendre des phénomènes complexes, plus vous pouvez anticiper des phénomènes complexes. Or, vous savez, souvent on dit que dans le dérèglement climatique aujourd'hui, ce qui nous manque, c'est des modèles mathématiques. Ce qu'on appelle modèle mathématique, c'est la compréhension d'un phénomène. Et en fait, le fait de les étudier même sur Jupiter peut permettre de comprendre des choses.
Ça nourrit en fait.
Ça nourrit en fait.
C'est une réflexion.
Tout se nourrit en fait. Il ne faut jamais voir les sciences comme des choses qui sont en silo. C'est des choses qui se nourrissent les unes les autres. Et c'est ça qui est très intéressant. Et d'ailleurs, autre découverte, on a découvert qu'il y avait du quartz ailleurs que sur Terre. Alors le quartz, sur Terre, vous savez, c'est ces jolis trucs qu'on vous vend dans les stations de ski, mais ou que vous avez dans votre montre, d'ailleurs, montre à quartz. C'est issu du manteau terrestre, et ça vient de la forte chaleur et pression faite sur des minéraux qui le constituent. C'est-à-dire qu'en fait, on sait que sous le manteau terrestre, du fait qu'il fait très chaud et que la pression est très forte, les minéraux vont se mettre sous une certaine configuration qui est ce fameux quartz. Tout le monde a vu du quartz, c'est joli, c'est brillant, et ça fait des jolis cristaux. On pensait donc que le quartz n'existait que sur les planètes telluriques, donc qui ont un plancher, comme une Terre, un sol, comme la Terre, c'est-à-dire qu'ils sont solides majoritairement. Eh bien, figurez-vous que non, parce que depuis quelques années, on sait qu'il y en a aussi dans les planètes gazeuses. Voilà. Et en observant la planète gazeuse géante, j'adore les noms que donnent les astronomes, WASP 17b, je ne vais pas vous le dire en anglais, mais WASP 17b, située à une distance légèrement lointaine de 1300 années-lumière de la Terre.
Ça va.
C'est-à-dire qu'en fait, sa lumière met 1300 ans à nous atteindre, c'est ça que ça veut dire, 1300 années-lumière. Oui.
Une année-lumière, c'est pas plus long que... Parce que tu dis... pardon, mais tu dis 1300 années-lumière.
Ça veut dire qu'il faut 1300 ans pour que la lumière qui est émise d'un peu du point arrive à nous. 1300 années-lumière. Et la lumière voyage à 500 000 km/s. Donc il faut faire une multiplication pour l'avoir en kilomètres. Et je ne vous le donnerai pas, ça fait beaucoup.
Oui, pardon, c'est ça.
Donc voilà. Donc on a fait une drôle de découverte en l'observant avec le télescope. Dans son atmosphère se trouvent des cristaux de quartz purs. Et ça, c'est un peu de nouveau. C'est-à-dire que, on sait qu'il pouvait y avoir du quartz étrange, mais pur, c'est de nouveau. Donc, WASP-17b est une planète qui, orbitant à seulement 7,8 millions de kilomètres de son étoile. Donc, elle est très très près de son étoile. C'est ça que ça veut dire. Retenez juste qu'elle est très 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 près. Voilà. Je ne vais pas vous faire un... Donc, ça la soumet en fait à une température extrême. Il fait 1500 degrés. Celsius à peu près, sur la planète. Et du fait de la proximité de cette étoile, son atmosphère s'est étendue. Parce qu'en fait, l'étoile, elle attire l'atmosphère. C'est la gravité. Donc l'étoile attire l'atmosphère. Et donc, elle atteint à peu près 295 000 km, soit le double du diamètre de Jupiter, soit 22 fois la Terre. Oui, parce que Jupiter, c'est 11, donc faites 2. Voilà. Ça va jusque-là ? Bon. Pourtant, sa masse est moins importante que celle de Jupiter. Okay. Parce que tout simplement, ça s'étend, mais ça ne fait pas plus de masse, enfin plus de gaz dedans. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que cette expansion atmosphérique qui a attiré l'attention des chercheurs, c'est l'extension atmosphérique qui a attiré l'œil des chercheurs. Parce qu'en fait, en passant dans cette zone avec le télescope, ils se sont rendus compte qu'il y avait une sorte de planète qui avait une forme de ballon de rugby. Okay. Et ils se sont dit, oh tiens, c'est marrant, il y a un ballon de rugby. Comme c'était la Coupe du Monde, non je déconne, rien à voir, mais ça les a intrigués. Donc ils ont pointé le télescope dessus. Et donc les astronomes, qui étaient dirigés par Daniel Grant de l'université de Bristol, ont utilisé l'instrument dit d'infrarouge moyen. Alors retenez pas, mais il s'appelle MIRI, de James Webb, pour observer WASP-17b. Donc en gros, on a observé dans l'infrarouge. Donc en infra, comme son nom l'indique, c'est en dessous. Donc on voit ultraviolet au-dessus, infra en dessous. Voilà. Donc c'est le rouge, en fait. C'est ce qui vous donne chaud quand vous êtes sur vos terrasses à siroter et qu'on allume un truc. C'est l'infrarouge, c'est ce qui fait la chaleur. Voilà. Ça va ?
Oui, alors s'il demande beaucoup ça va, c'est parce qu'il voit mes yeux complètement complètement perdus.
Mais non, mais voilà. Mais donc, retenez juste, on a observé dans l'infrarouge. lors de son passage devant son étoile. Parce que pour voir une exoplanète, il faut voir l'ombre projetée de cette exoplanète quand elle passe devant l'étoile. C'est comme ça. Donc les premières analyses, elles ont confirmé la présence d'hydrogène, d'hélium, de dioxyde de carbone et de vapeur d'eau. Jusque-là, tout va bien. Mais également de cristaux de quartz pur. Et là, qu'est-ce qu'ils foutent là? C'est assez étrange. Pourquoi? Parce qu'en fait, à cette température, ils ne devraient pas être là. Okay. Ouais, c'est ça qui était étonnant. Donc en fait, ils sont minuscules, ces cristaux de quartz, et ils sont hexagonaux. Oui, parce qu'on peut voir tout ça en proche infrarouge. Ça peut paraître très étrange, mais on observe une planète qui est à 1300 années-lumière, et comme on peut grossir énormément, on arrive à voir à savoir quelle peut être la forme des cristaux de quartz. Ça paraît, mais c'est vrai. C'est juste fou quand même. Donc ce sont en fait des silicates, donc c'est-à-dire des minéraux riches en silice et en oxygène. Ça retenait juste ça, c'est le sable. Vous connaissez déjà à peu près. Et notons que les cristaux de quartz détectés étaient extrêmement petits parce qu'ils semblent mesurer à peu près 10 nanomètres. Oui, on a pu le savoir à 1300 années-lumière. Ouais, mais c'est vachement pratique d'avoir des appareils très très fins. Les cristaux de silicate de magnésium étaient attendus parce que comme je vous disais, on savait que dans des planètes gazeuses, on pouvait en avoir. Mais ce qui a été observé ici, ça semble être des éléments constitutifs de ces cristaux. C'est-à-dire qu'ils sont en train de se former. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'ils continuent à se former. Et là, il s'agit de particules de graines qui donnent naissance à des plus gros grains de silicate, et ainsi de suite. Donc en fait, là où c'est intéressant, c'est que plus les exoplanètes sont froides, gazeuses, et plus vous avez de silicate, ou de silicium, ou de gros cristaux dans leur atmosphère. Mais là où ça a surpris, c'est qu'en fait, WASP-17b, en fait, il a ses cristaux, mais elle est à un endroit où il fait trop chaud pour qu'il soit là. Mmh. Et sous une forme où il ne devrait pas être là.
Okay.
Et ça intrigue, parce que ça remet en cause tout ce qu'on pensait être certain. Vous voyez ? Donc cette exoplanète, elle est également immobilisée par les marées. Alors ça, retenez juste que plus on se rapproche d'une étoile, moins on tourne. C'est le plus simple, voilà. Et donc, ça signifie qu'elle montre toujours la même face à son étoile. Et il y a donc des brumes à haute altitude qui se créent, semblables à des nuages, mais en fait, ces nuages sont constitués de cristaux de roche.
Okay.
Et lorsqu'un vent se met à souffler, et là, ça rejoint ce qu'on a vu sur Jupiter, les nanoparticules de quartz, elles partent de la zone qui est celle de, celle de la transition entre le jour et la nuit. C'est-à-dire qu'en fait, ça se forme sur la zone chaude-froide, comme on dit, et c'est soufflé par les vents, et ça repart ailleurs sur la planète.
Okay.
Et ça, en fait, c'est quelque chose qui interroge les scientifiques, parce que dans les conditions de chaleur intense, en fait, je ne sais pas si vous arrivez à comprendre, mais le silicate, c'est ce qui fait le verre.
Okay.
Et un four pour faire du verre, c'est à 1650 degrés.
Okay.
Donc on est à 1500 degrés. Donc en fait, soit ça devrait être sous forme de verre, soit ça devrait être pulvérisé, et ça ne devrait pas exister comme ça, vous voyez. Et pourtant, c'est là. Donc, il va bien falloir comprendre pourquoi. Donc, ce qui interroge les scientifiques, c'est que sur WASP-17b, les conditions sont extrêmement hostiles pour la formation de ces cristaux, du fait de la pression dans son atmosphère, qui est inférieure à celle que l'on connaît, du fait de la chaleur, et il va donc falloir à un moment se pencher dessus pour comprendre comment cela est possible. Et là, je sais que plein de gens vont me dire, mais ça sert à quoi? Eh bien, je vais vous dire, par exemple, une application, parce que je l'ai pas noté, mais je l'avais en tête, c'est par exemple dans le cadre du nucléaire. Ça va vous paraître très étrange ce que je dis, mais en fait, dans le nucléaire, il y a une chose qu'on sait faire, c'est vitrifier, mais on ne sait pas dévitrifier.
Mmh.
On sait mettre les déchets dans du... Et on ne sait pas comment on peut dévitrifier ça, parce qu'un jour, il faudra peut-être qu'on fasse quelque chose des déchets. Et il y a des scientifiques qui disent que peut-être qu'avec un laser, dans des conditions précises de température et de pression, on pourrait éclater les cristaux de quartz et enlever la radioactivité par un effet de roulement autour du silicate. Et c'est en fait, a priori, d'après les scientifiques, ce qui est en train de se passer sur cette planète.
Okay.
Donc, en fait, en comprenant ce qui se passe à 1300 années-lumière de la Terre, déjà, ça va nous faire comprendre des choses qu'on ne savait pas, mais en plus, ça peut nous aider, sur Terre, à nous débarrasser d'un problème un peu casse-couille. Pardon pour l'expression, mais un peu gênant, qui est les déchets nucléaires. Voilà. Donc, c'est tout ça est lié, mais c'est hyper intéressant, parce qu'en fait, les scientifiques disent, on ne n'imaginait pas, en braquant juste un télescope sur une planète lointaine, avoir 50 questions qui nous arrivent à résoudre. Oui. Et pourtant, c'est ce qui se passe. Et là, il y a un autre phénomène qui a pu être observé. C'est la première kilonova qu'on a pu observer. Alors, ne vous inquiétez pas, Georges vous a déjà parlé des kilonovas. Les kilonovas, c'est quand deux étoiles à neutrons compactes fusionnent avec une autre étoile à neutrons. Alors, ils s'aiment bien. elles s'aiment bien, elles se rentrent dedans, elles sont contentes parce qu'elles se trouvent dans, hop, au même endroit, et pouf, ça explose. Ou alors elles fusionnent avec un trou noir, et pouf, ça explose. Voilà. Et elles produisent un événement astronomique rare et transitoire connu sous le nom de kilonova, qui génère en fait un brillant sursaut gamma, c'est-à-dire un gros sursaut d'ondes et de lumière et tout ça. Et le télescope spatial James Webb a récemment pu observer sa première kilonova. Voilà. Et on a pu enfin comprendre que c'est dans ces kilonovas que la plupart des éléments lourds, c'est-à-dire plus lourds que l'hydrogène, se forment. Alors là, vous me dites, mais je comprends pas le truc. Ben, en fait, c'est que jusqu'à maintenant, on n'avait que des pistes pour savoir comment se formait le fer, par exemple, qu'il y a sur Terre, ou le titane, ou des choses comme ça, et d'où il sortait. Et en fait, on disait, c'est les super étoiles massives. Mais en fait, les super étoiles massives, ça répondait pas à tout. C'est-à-dire qu'en fait, ça formait certains de ces trucs-là, mais pas dans des quantités suffisantes pour se dire que sur Terre, il y avait autant de fer que, par exemple, que ce qu'on a. Et ce qui permet en fait d'expliquer la quantité, c'est qu'il se produit de temps en temps des kilonovas. C'est-à-dire deux grosses étoiles bien bien lourdes, mais toutes petites, mais bien compactes, qui se rentrent dedans et qui réexplosent, et que en fait se forment plein d'éléments très lourds qui vont jusqu'à l'uranium. Voilà, et qui vont constituer ensuite les planètes. Ça a l'air de rien, mais on n'avait jamais eu la preuve. C'était scientifiquement l'explication. On avait l'explication. L'observation, on l'avait pas faite. Donc ça, c'est fait. Donc je vous passe les aspects techniques, parce que Eric Burns, qui est de l'université de Louisiane, il s'est fait chier pour arriver à ce truc-là. Ils étaient 250 à travailler, pour info. Ouais. Mais il a mis en place poursuivre deux étoiles à neutrons qu'ils avaient repérées. Ils se sont dit, tiens, elles vont se rentrer dedans, elles sont dans le même plan, ça devrait bien se passer. Donc ils ont suivi ça pendant 2 ans pour atteindre le moment où elles fusionnent, c'est-à-dire le moment où elles se rentrent dedans. Mais ils ont pu du coup braquer le télescope James Webb au bon moment, pile au moment où les deux étoiles se rendent dedans. Voilà. En termes d'observation dans le proche infrarouge, donc c'est le MNIRI, tout à l'heure, les instruments de bord du télescope spatial ont joué un rôle central dans la découverte de détails cruciaux sur la kilonova. Le télescope en orbite a aidé les scientifiques, je cite parce que j'ai repris un truc, les scientifiques à localiser la source du système à neutrons binaires situé dans une galaxie qui était, elle, à 120 000 années-lumière de la Terre. Voilà, c'est juste à côté. Voilà. Et donc, ils ont pu observer quelque chose qui est quand même à 120 000 années-lumière, donc c'est-à-dire que ce qu'ils ont vu à 120 000 ans, pour comprendre un petit peu le truc. Donc Webb a également détecté en fait des émissions provenant du tellure, donc c'est un élément métalloïde, le tellure, qui a un numéro atomique 52, donc c'est assez lourd en fait quand on regarde des... Voilà. Et la kilonova, elles ont été considérées comme par les scientifiques, ils les appellent les autocuiseurs. Pourquoi est-ce qu'ils pensent que c'est là-dedans que dans l'univers, tous les éléments les plus rares et les plus lourds que le fer sont synthétisés. Et donc GRB, parce que c'est son nom, GRB2307A, ça semble confirmer en fait la théorie que c'est bien dans les kilonovas que se forme tout ce qui est plus lourd que le fer. Et donc, c'est bien de catastrophes immenses que naissent les éléments les plus lourds et les plus rares que nous connaissons. Et ça, c'est intéressant parce que ça répond à une question qu'on se pose depuis le 18e siècle. C'est pas mal, non, 19e siècle, pardon, 1800, donc 19e siècle. C'est-à-dire qu'il a fallu 200 ans pour qu'on ait un outil qui nous permette d'observer ce que l'on avait déjà théorisé. Et ça vient donc confirmer la plupart des théories sur la formation de tout ce qui est plus lourd que le fer. Et ça a l'air de rien, mais c'est exceptionnel en fait, pour un télescope qui a été envoyé il y a 2 ans et dont on n'imaginait pas tirer 10% de ce qu'on a tiré depuis. Et puis il y a un truc qui est arrivé, et là, ça va pas faire plaisir aux religieux, ni à ceux qui croient qu'on est exceptionnel. Le dernier point, c'est que le télescope, il a permis d'observer des dizaines et des dizaines d'exoplanètes. Donc, exoplanètes, c'est en dehors du système solaire, pour être clair, depuis sa mise en orbite. Et il sort, du coup, de plusieurs études, une chose que l'on n'attendait pas forcément. Et les caractéristiques de la Terre, elles ne sont pas aussi exceptionnelles que ça. Que ce soit la distance avec le Soleil, la composition du sol, la teneur en eau, etc., etc. Il y a plein d'exoplanètes qui ressemblent à la Terre. Voilà. Et cela relance une chose toute bête. Si les conditions terrestres ne sont pas si uniques qu'on le pensait, alors les conditions pour l'apparition de la vie non plus. Parce que il n'y a pas de raison, c'est linéaire. Et donc c'est grisant, ça veut dire que y a de fortes chances que la vie existe dans plein d'autres endroits dans l'univers, et que donc nous ne soyons pas seuls. Après, c'est pas dit que la vie ailleurs dans l'univers ressemble à nous. Genre des gens qui s'entretuent juste pour des religions, des territoires, des frontières. Peut-être qu'eux, ils sont plus intelligents, ils se sont dit « Non, c'est vachement cool, on va vivre tous ensemble et c'est vachement mieux. » par exemple.
Voilà. Ou pire.
Ou pire, on sait pas, mais bon, soit c'est ton côté pessimiste, moi c'est mon côté optimiste. Donc voilà. C'est d'ailleurs la prochaine étape de plusieurs groupes de scientifiques. Trouver dans les atmosphères de ces planètes des gaz qui n'existent que si la vie existe. Ouais. Parce que quand la vie est présente, on émet des gaz. Ça paraît bizarre ce que je dis, mais on émet, en fait, il y a des gaz qui se créent. Et en fait, ben, il n'existe que s'il y a de la vie. Et en fait, la première mesure allant dans ce sens, elle a eu lieu sur l'observation de l'exoplanète K2-18b, bon, je vous laisserai chercher où elle est, et James Webb a détecté la signature d'une molécule qui n'est produite sur Terre que par la vie. Et en fait, maintenant, bah, il faut d'autres données pour infirmer ou confirmer cela, déjà sur la même planète et sur d'autres planètes. Mais on est quand même là à l'aube d'une révolution, c'est-à-dire celle où on va quand même commencer à devoir admettre que nous autres petits êtres humains sur cette planète bleue qui tourne autour du Soleil, ne sommes peut-être pas les seuls à vivre et peut-être pas la seule forme de vie dans l'univers. Et peut-être que tout ce qui est écrit dans nos jolis petits livres de fadaises et de fables, eh ben, n'est que des fadaises et des fables. Voilà. Mais c'est dommage, mais c'est comme ça. Voilà. Alors voilà, je vais en rester là pour ce soir. Je vous dis, hein, tout ce que je vous ai dit là, c'est les 15 derniers jours de publication. Donc on est, il y a une masse énorme. Je vous invite vraiment à aller sur le site du CNES ou de la NASA pour suivre tout ce qui est autour de James Webb, parce que c'est vraiment super intéressant. Les photos, comme tu disais, rien que pour la beauté des photos, mais aussi bah, toutes les découvertes, parce que vraiment, bah, les scientifiques eux-mêmes disent, mais on n'aurait jamais imaginé découvrir tout ça en si peu de temps et avec, voilà, à tel point d'ailleurs, pour votre information, qu'à la NASA comme au CNES, ils demandent des rallonges budgétaires en ce moment. Alors, oui, pardon, je vais le dire quand même. James Webb, c'est 2 jours de guerre. Hein? Donc allez pas hurler parce qu'on demande un peu de sous pour de la science, parce que voilà, hurler parce qu'on fait la guerre, voilà, ce sera beaucoup mieux, hein? Je ferme la parenthèse, mais c'est juste pour vous rendre compte un peu du truc. Donc en fait voilà, ils demandent une rallonge budgétaire parce qu'ils ont plus assez de bras pour enfin de cerveau et de bras pour bah, faire les calculs tout ça, parce que bah, du coup il y a tellement de données qui arrivent et de choses qui arrivent que bah, ils disent c'est super bien, mais là, va falloir y aller, quoi, et va falloir aller au charbon, quoi. Et donc, bah, moi, je trouve qu'il y a de quoi s'enthousiasmer, hein, pour tout ce que la science nous offre ces derniers temps, et en particulier l'astronomie et la cosmologie. Et ça vaut le coup, dans cette période un peu sombre, et bah, de se dire que, des fois, peut-être qu'on va sortir de ce marasme par le haut plutôt que par le bas. Et j'ai envie d'y croire, mais là, c'est vraiment de la croyance plus que de non, là, disons simplement que ouais, j'avais envie ce soir de vous parler d'un truc un peu plus positif et de vous dire que finalement, si on n'est pas tout seul dans cet univers, ça peut peut-être être cool de se dire que voilà, on n'est pas tout seul.
Bah ouais. Ouais, on trouvera une raison de détester l'ennemi extérieur.
Oh, arrête. T'es négatif, toi.
Non, je suis pas négatif, c'est juste je regarde aussi
toi qui aimes pas les religions.
Ah, non, mais ça c'est
c'est quand même la destruction des livres saints.
Oui,
de
mais
tous,
alors
de tous sans exception.
Je veux dire, jusque là personne nous a jamais présenté aucune preuve de l'existence d'un dieu, et pourtant encore des milliards d'êtres humains qui y croient.
On est d'accord.
Donc je ne suis pas sûr qu'une seule preuve de l'existence de la vie ailleurs suffise à ce que des millions, des milliards de gens remettent en question leur croyances dogmatiques.
Alors,
en fait,
je suis d'accord avec toi. Par contre, je pense que dans une société où on donnera accès à des connaissances scientifiques les plus larges possibles, et où on donnera en fait des outils les plus larges possibles. D'ailleurs, si les extrêmes droites et droites du monde entier s'attaquent à tous les programmes scientifiques, à tout ça, diminuent l'accès aux sciences, c'est pas pour rien.
Ah non, mais ça, on est complètement d'accord. Mais
parce qu'eux ont pris conscience qu'on était à un tournant, et que ce tournant, il risquait d'être aussi révolutionnaire, je mets des guillemets, qu'ont pu l'être le fait Copernic ou des choses comme ça. Et qu'aujourd'hui, bah, si un groupe de scientifiques de plusieurs pays arrive à dire bah, on n'est pas la seule forme de vie dans l'univers, bah, en fait, c'est énormément de dogmes qui se retrouvent remis en cause, et que donc, du coup, ça, ils le savent. Donc ne pensez pas que l'extrême droite et la droite dans le monde entier fait par hasard l'envie de chasser de nos connaissances la science. C'est parce qu'elle remet en cause tout ce qui est fonde en fait leurs petites haines habituelles.
Évidemment.
Et ma musique?
Ouais.
Shiva Rama Adonai, Shiva Rama Shakti, Shiva Rama. than toilet blood.
Mais qui, dans la musique, aurait pu imaginer mélanger chants de zigane avec des chants hindous et avoir des paroles qui finissent avec des morceaux de brosse à chiottes? Eh bien, en fait, il n'y a qu'un seul groupe, c'est Army of Lovers. Et ils sortent... Oui, vraiment, il y a une histoire dans les paroles. Il y a en fait un moment où il dit « Tu finiras coiffé comme une brosse à chiottes ». Voilà, et donc, c'est Army of Lovers. Et Army of Lovers, si vous vous souvenez, c'était Crucified dans les années 90. Et là, ils reviennent avec...
Pour les plus jeunes d'entre nous.
Et ils reviennent avec un nouvel album complètement dingue, et je vous invite vraiment à écouter les trois premiers morceaux, parce qu'ils viennent d'en mettre trois en ligne, et ils sont toujours aussi barrés. Moi, ça me fait marrer, mais après, il y a des gens qui aiment pas, puis bon, c'est irrévérencieux, puis c'est anti-religieux. Bon, bref, voilà tout ça. Et donc, du coup, Jean-Yves, c'est toi qui voulais nous parler d'un film.
Ouais,
et d'un film qui va nous amener au bord de la mer.
Ouais, effectivement. Oui, effectivement. Ce soir, effectivement, je vais vous parler cinéma et plus précisément du film L'air de la mer rend libre de Nadir Moknesh à la réalisation et au scénario. Et pour ce dernier, il est aidé de Neila Guiguet et Michael Barnes. Et le film est en salle depuis le 4 octobre 2023. D'où l'idée d'en parler ce soir parce que bon. Donc, c'est le sixième. C'est pas bientôt fini, oui.
Pardon, désolé.
C'est le sixième long métrage du réalisateur franco-algérien Nadir Moknesh. Vous connaissez peut-être certains de ses films précédents, dont Le Harem de Madame Haussmann,
un bijou,
qui date de l'année 2000, Viva l'Algérie de 2004.
Pas l'Algérie.
L'Algérie.
Oui.
L'Algérie.
Ouais, c'est ça.
Ouais.
Pardon, oui.
Il est un peu tatillon ce soir, non?
Non, j'ai compris, mais
tantiné.
Voilà. Voilà.
Hein, tantiné.
Pardon. Et c'est aussi, oh là là. Et c'est aussi un bijou.
Tant d'expressions désuètes.
Et voilà, ouais, ouais. L'Algérie.
Donc ça, c'est 2004 ou encore Lola Pater de 2017. Et le film alors, eh ben, c'est à Rennes qu'on entre dans la vie de Saïd et Adjira le jour de leur mariage. Saïd a la gueule de bois, sa famille tente de le réveiller, de le motiver. A-t-il vraiment envie de ce mariage ? Adjira, elle, attend sagement, un peu comme si elle n'était pas vraiment actrice de tout ça. On peut aussi se poser la question là, a-t-elle vraiment envie de ce mariage ? Le premier, donc Saïd, il est boucher dans la boucherie familiale. Il est homo, secrètement ou presque, amoureux de Vincent, un musicien de jazz. Mais ses parents, vous l'aurez compris, ont voulu le marier. Adjira, elle, en fait, arrivant de Miramas, dans le sud, sort d'une rupture amoureuse avec un dealer et des soucis avec la justice. Elle est un peu vue comme une délinquante par sa mère et elle pense finalement trouver une forme de paix entre religion et mariage. Entre, oui, croyance et mariage. Les deux, donc, sous une pression douce mais réelle de leurs familles respectives, vont donc plier, leur donner raison en acceptant ce mariage arrangé. Alors, si les deux personnages ne nagent pas en plein bonheur, c'est bien visible. Leurs familles, quant à elles, sont ravies. L'honneur est sauf, le « chez nous » entre guillemets sera satisfait et les parents se rêvant grands-parents seront comblés. C'est super, non ? Bon, même si ça doit passer par la négation des deux premiers concernés. S'en suivra une vie de couple assez chaotique, alors avec de la tension, de l'affection qui finalement va se construire aussi en s'appréhendant parce qu'en fait, ils ne se connaissaient pas. Mais il y a des choses qui clochent en fait. Hein. On sent comme une forme de tension un peu constante. Il y a quelque chose qui ne va pas. Adjira, hein, elle souhaite un enfant et aussi sortir du rôle de femme au foyer. Elle souhaite se sociabiliser dans son nouvel environnement puisqu'elle a vraiment bougé de coin. Et c'est ce qu'elle fera hein, finalement en sortant dans le parc qui est en bas de chez elle, hein, lieu où elle rencontrera Fariza. Son opposé, on peut vraiment le dire, hein, c'est vraiment son opposé, et qui deviendra finalement sa confidente aussi. Hein, ça va être, ben, au final, on va retrouver une forme de sororité. Finalement, ces deux femmes qui vont échanger aussi sur leurs conditions, pardon, je voulais pas venir le mot, sur leurs conditions de femmes, sur leur rapport aux hommes, etc.
Et sur les hommes tout court.
Oui, c'est sur les hommes.
Oui, effectivement.
Donc voilà. Et Saïd, lui, bah, il navigue entre boulot, maison et plan d'un soir, hein, histoire quand même de laisser son homosexualité exister, au moins sur le plan sexuel. Et avec tout ça, on n'oublie pas évidemment hein, cette pression de la famille, toujours présente, hein, l'incursion de la famille dans leur intimité et ce constant « alors, bientôt parents ?» Enfin, est-ce qu'on sera bientôt grands-parents aussi ? C'est surtout ça finalement hein, qui les interroge et qui les motive le plus, quoi. Mais un événement viendra mettre un coup de pied dans cette lisse mascarade qu'est ce mariage. Bref, je vais pas faire 3 heures sur ce film d'une heure 30, ce serait vraiment exagéré. Mais je vous invite vraiment, vraiment, vraiment à le voir. Tant ce film, en fait, parle et interroge et dénonce aussi. En tout cas, il interroge, il questionne, hein, on va dire ça.
Ah, si, il dénonce par le questionnement. C'est quand même. Il y a un film qui a un fond politique quand même.
Oui. Donc ça interroge, ça dénonce, ça parle en fait des normes, du poids de la famille, hein, du poids des traditions, la négation de soi aussi hein, finalement pour le bien du groupe, de la famille, de l'honneur, enfin toutes ces choses-là. Mais aussi le silence complice finalement dont peuvent faire preuve les sœurs, les frères. Hein. On sait, on a un avis, mais on dit rien. Hein. Ou pas tant.
C'est mieux pour la famille.
Oui, c'est ça. Faut surtout pas casser tout ça. Mais c'est aussi un film sur l'amour qui finalement peut aussi être le fait de savoir laisser l'autre prendre son envol. Parce qu'il y a aussi de l'amour là-dedans en fait. C'est quand on retient pas l'autre d'être libre en fait, enfin, c'est aussi ça l'amour, sur l'émancipation, sur la réalisation de soi, même si bah, ça se fait rarement hein, sans conflit, mais la liberté eh ben, elle a un prix et c'est souvent celui-ci et le tout quand même est fait vraiment sans simplisme, sans facilité, et même si on est dans la fiction hein, le réalisateur il aime beaucoup le rappeler que c'est pas du documentaire, on n'est pas du tout dans ça, c'est de la fiction. Et ben dans cette fiction, c'est une fiction très réaliste en fait. Alors, ça, évidemment, ça ne fait pas un documentaire, mais vraiment, c'est. Enfin, je pense que des fois, on se dirait, mais c'est pas possible la réalité, tu vois. On pourrait se dire, mais c'est purement fictionnel. Et pourtant, peut-être qu'on connaît toutes et tous des personnes qui ont pu avoir un peu le même genre de parcours. Et ben, on sait bien que le réel est des fois tellement. Tellement fou qu'on se dit mais c'est pas possible, c'est pas réel. Enfin, et ben si en fait, le réel dépasse la fiction. Ou j'espère qu'on peut dire ça quoi.
Mais je pense surtout qu'il place ça dans la fiction surtout parce que ça se passe très vite. C'est-à-dire que c'est un film d'une heure trente et que il est obligé d'avoir un arc narratif.
Oui, non. Et après lui, il le dit souvent, c'est que en fait.
Mais il veut pas stigmatiser non plus.
Non, alors, il veut pas stigmatiser, il veut pas simplifier, il veut pas faire de clichés. Non, justement, je trouve qu'il y en a pas. Justement, je trouve qu'il est vraiment. Enfin, ouais. Et c'est ce qu'il dit souvent aussi. Qu'est-ce que je voulais dire ? Je ne sais plus. Si, c'est que en fait, lui, il trouve que les films revendicatifs. C'est très compliqué à faire. Pour qu'un vrai film soit revendicatif sur tout le long du film, et ben en fait, ça demande énormément de travail et c'est pas du tout sa démarche à lui. Alors,
et pourtant, je trouve qu'il y arrive. Non, c'est paradoxal. Je trouve que son film, finalement,
je comprends ce qu'il veut dire. Fondamentalement, je veux dire, et pourtant on est dans ce milieu-là, et finalement on est peut-être aussi des fois comme ça, la revendication à tout prix. Et eh ben des fois elle manque de subtilité, elle manque de nuances, elle manque de plein de choses.
Ah oui, je vois ce que tu veux dire.
Le réel est beaucoup plus nuancé que peut l'être les milieux militants, et ça à la rigueur presque quel qu'il soit, il y a une forme de simplisme dans les milieux militants. Je veux dire, tu prends un tract, si la réalité était aussi simple,
oui, on est d'accord,
ça se saurait quand même, quoi.
On est d'accord.
Donc voilà. Donc évidemment, je vais quand même terminer dans pas trop longtemps. Alors évidemment, je peux pas terminer sans parler du casting. Alors Saïd est formidablement joué par Youssouf Abi Ayad. Alors lui, j'ai découvert qu'il venait du théâtre et pas du ciné. C'est son premier film. Mais alors, il est d'une justesse, d'une douceur, d'une, enfin, absolument, enfin, incroyable.
Puis s'il nous écoute, 06.
Tout de suite.
Excusez-moi. Non, mais en plus, il est extrêmement beau, mais pas que physiquement, dans ce qu'il dégage.
C'est absolument magnifique. Mais au-delà de l'apparence physique, hein, on soit bien clair.
Oui, tout à fait.
Adjira, elle est jouée par Kenza Fortas, et vraiment les deux arrivent si bien à nous transmettre leurs émotions, leurs doutes, leurs colères et aussi leurs frustrations qui sont intériorisées. On sent que, en fait, finalement, est-ce que cette chose qui flotte un peu, cette ambiance un peu étrange, est-ce que justement c'est pas le fruit de toutes ces frustrations qu'en fait les deux ont et n'arrivent pas à poser, ou en tout cas
exprimer,
oui, c'est ce que je veux dire dans poser, mais en tout cas pas tout de suite. Ça viendra, mais voilà.
Moi, je fais juste une parenthèse, je l'avais découvert dans Sherazade à l'époque.
Oui, c'est exactement ça.
Et c'est une actrice, mais alors pareil, hein, qui a un charisme hallucinant, et je trouve qu'elle est pas assez utilisée dans le cinéma français. Enfin, il faut vraiment la mettre en avant, mais
ça viendra, elle avait eu un César, je crois, de meilleur espoir.
Ouais, mais justement le problème, c'est qu'en France, quand on donne un César de meilleur espoir, on a tendance à le laisser là dans l'espoir.
Ouais, OK.
Donc ça serait bien de lui donner des rôles aussi.
Et justement, ils arrivent aussi à nous transmettre ce côté un petit peu à côté de leur vie. Parce que c'est compliqué à expliquer pour moi, mais vraiment je vous invite à aller le voir. Et les autres rôles, eux aussi, hein, sont vraiment très bien interprétés, avec une justesse aussi là, avec plein d'individus différents et en même temps qui essaient de corriger peut-être leur vie et qui veulent aussi sauver leurs apparences. C'est hyper bien foutu. Mais il y en a quand même un petit paquet, j'avais pas envie de tous vous les citer, et comme je me l'écrivais, j'espère que vous irez le constater par vous-même en allant voir ce film. Et toute dernière chose aussi, enfin on pourra en parler encore un peu plus, mais c'est la bande son, tout jazzy, hein. Jazz quand même, musique d'émancipation, mais aussi finalement c'est la musique que joue Vincent, vous savez, l'amoureux qu'avait Saïd. Voilà, et ben il y a vraiment une ambiance musicale dans ce film, et après on pourrait parler aussi de la lumière et tout, il y a des fois une sorte de les comédiens sont entre l'ombre et la lumière, et alors je trouve, moi, mais après je sais pas du tout si c'est ce que voulait exprimer le réalisateur, mais je trouve que ça exprime tellement leur situation à ces deux personnages.
Plus le film avance, et plus la lumière est présente.
Ouais, c'est oui. Donc c'est vraiment, c'est très très bien foutu, et je vous invite vraiment, donc courez au ciné, parce que ça fait quand même 3 semaines, hein, comme je vous le disais, que L'air de la mer rend libre est sorti. Et comme vous vous en doutez, hein, c'est pas non plus un film qui est aussi bien distribué qu'un blockbuster. Donc cherchez les petites salles, parce que c'est majoritairement dans des petites salles, même dans une grande ville comme Lyon, que c'est diffusé. Et courez-y, c'est 1h30, ça passe très vite, et c'est vraiment très bon. Et je trouve que ça met en lumière des situations. Pour avoir connu quelqu'un qui a pu être dans cette situation-là, je trouve que ça met en lumière une situation dont on parle pas forcément, ou dont on en parle mal, etc. Et là, ça, enfin vraiment, c'est absolument, enfin super bien foutu et super bien joué. Et voilà. Donc je m'arrête là. Hein,
Jean, il va aimer. Vous pouvez vous dire que c'est un très bon film.
Ou pas, attention, parce que j'aime aussi la Tour Montparnasse infernale, pour rassurer les gens.
Bon, mais moi, je voulais juste, alors juste comme d'en parler, moi je vais juste quand même citer 3 noms en plus, mais parce que j'y tiens.
Moi j'y tiens,
c'est Saïda Bentayeb qui fait la mère envahissante, et qui est une actrice que je trouve géniale. C'est Zinedine Zoualem qui fait le père, et Zinedine Zoualem dans le rôle, il est juste fabuleux. Et vraiment, enfin, comme il l'a dit dans une interview, c'est un de ses rôles les plus difficiles à jouer, et on comprend pourquoi quand on le voit. Voilà. Et surtout, j'ai perdu son nom. Faut pas juste que je le dise de bêtises. Elle s'appelle Zaya, mais j'ai perdu son nom de famille. Bon, voilà. Bon, Zaya, vous connaissez tous Zaya. Mais en tout cas, voilà. Mais elle est aussi dans le film. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'elle est le contre-pied de ce film. Et c'est pas forcément le rôle le plus facile. Et finalement, elle y arrive plutôt bien. être ce contre-pied.
Donc, bah, c'est justement Zaya,
ouais, c'est ça.
Qui joue
Dénard, voilà, je trouve ça...
ouais, qui joue Fariza,
voilà.
Sa voisine, ouais, dont je vous disais qu'elle était à l'opposé.
Et c'est une vraie actrice.
D'Adjira, la personnage principal du film, en fait. Donc voilà, un coup résil, donc l'air de La mer rend libre de Nadir Moknesh, toujours au ciné, et coup résil parce que je suis pas sûr qu'après mercredi prochain ils soient encore dans les salles. Donc vraiment, allez-y et n'hésitez pas à faire des retours, comme on vous le dit régulièrement, à donner vos avis si vous l'avez
sur
vu
le blog,
aussi. Sur le blog, évidemment.
Sur lacauseriecanu@gmail.com.
C'est tout à fait ça. Mais sur le blog, c'est carrément cool. Comme ça, potentiellement, d'autres personnes pourront peut-être donner leur avis et pourquoi pas faire des petits échanges comme ça entre auditeurs et auditrices et nous. Et ben, je propose qu'on passe à la musique.
Your eyes are blue, your kisses too. I never knew what they could do. I can't believe that you're in love with me. I never knew what they could do. I can't believe that you're in love with me. You're telling everyone I know. I'm on your mind each place we go. They can't believe that you're in love with me. You love me, and after all is said and done, to think that I'm the lucky one, I can't believe you're in love. And after all is said and done, to think that I'm the lucky one, I can't believe that you're in love with me.
Et vous êtes toujours à l'écoute de la causerie sur le 102.2 de la bande FM et sur radiocanu.org sur les internets. Et vu que je vous parlais du film L'air de la mer rend libre, eh ben, on vient de s'écouter un extrait de la bande originale du film. Alors c'est de Samy, Samy Thiebaud et Hugh Coltman au chant. Et le titre c'était I Can't Believe That You Are In Love With Me. Voilà. C'était beau, n'est-ce
c'est
pas?
C'est super beau.
Oui, je trouve aussi. Alors, ben, on va se quitter vite fait avec quelques brèves. Alors, la première, c'est hyper urgent, on va dire, parce que c'est rendez-vous dans 7 heures, c'est-à-dire à 6h30, à 6h demain matin. Il y a un appel à rassemblement et conférence de presse devant le squat Pyramide, au 206 rue de Gerlans, donc c'est dans le 7e arrondissement de Lyon. Pour faire court, à deux jours de la trêve hivernale, la préfète, Madame Bucchio a pris la décision de faire expulser les habitants et habitantes de Pyramide lundi 30 octobre. Des centaines de policiers vont être mobilisés pour jeter à la rue des personnes vulnérables et précaires. La DDETS propose 20 places pour héberger 250 personnes. Ça ne suffit même pas à héberger les enfants présents dans le squat. Donc, et les autres propositions, c'est-à-dire d'une ministre, bah c'est par exemple d'ouvrir un gymnase pendant 3 jours. Bah oui, c'est vrai. Vu que l'automne et l'hiver approchent, c'est vraiment une bonne idée. Donc voilà, donc c'est vraiment un appel à ce que y ait le plus de monde possible en soutien à toutes les occupants et occupantes qui vont devoir faire face à la violence de l'État et de sa police. Donc, conférence de presse et rassemblement le 30 octobre, donc demain matin à 6h, à Pyramide 206 rue de Gerland, dans le 7e arrondissement.
Et bah, ça va faire écho à la deuxième brève que j'ai derrière et qui est une rencontre avec Julia Brillant. Pardon. Donc l'association Lyon Info Migration reçoit Julia Brillant, juriste, à l'Amicale du Futur hein, le 31 octobre, donc mardi soir, suite à la présentation autour du parcours de la demande d'asile. Parce que bah, si vous avez jamais essayé de comprendre comment on fait une demande d'asile en France, et si vous voulez revivre un épisode d'Astérix et du numéro 52B et 52C, bah c'est exactement ça. Bah elle va venir expliquer en fait comment on fait tout pour que bah l'asile ne soit pas facile à obtenir en France. Et après il y aura un temps d'échange avec cette juriste et les membres de l'association présents et présente. Il vous invite d'ailleurs à amener, si vous pouvez, un petit quelque chose pour le buffet final, si vous pouvez, et si vous pouvez pas, c'est pas grave, et de venir avec vos questions, si vous voulez, et si vous en avez pas, bah, venez quand même, parce que c'est hyper intéressant de se renseigner. Donc c'est au 31 rue Sébastien Griff à Lyon, dans le 7e, c'est donc à partir de 18h30, et la rencontre devrait durer entre 2 et 3 heures, selon les questions, voilà, et l'idée c'est de... Et bah, c'est aussi de s'armer avec une juriste pour pouvoir aider des gens qu'on peut connaître dans des situations complexes et aussi bah, quand on n'est pas concerné, de comprendre pourquoi par exemple Monsieur Darmanin raconte n'importe quoi lorsqu'il dit qu'en France il suffit de claquer des doigts pour avoir des papiers. C'est faux, et encore plus Monsieur Ciotti, et encore plus Monsieur Zemmour et Madame Le Pen, tous ces gens pleins de haine et de bêtises en fait, et qui racontent bah, vraiment des vrais vrais fariboles, comme dirait Clara. Donc voilà. Je plaisante. Non mais ouais, mais il faut s'armer, et c'est vrai que moi je le dis souvent, c'est des sujets complexes, mais quand on a des gens qui connaissent le sujet, notamment des juristes, c'est hyper bien de les entendre, parce qu'ils vous expliquent pourquoi, comment vous pouvez aider, ce que vous pouvez faire, ce que vous avez le droit de faire et de pas faire.
Oui, et puis ça permet aussi de démonter justement les fantasmes qu'on peut avoir, qu'on peut entendre autour de nous, et venant pas forcément que du ministre, mais qui se diffuse bien trop souvent dans les cervelets de nos semblables.
Tout à fait.
Et ben, c'est l'heure de se quitter largement, hein?
C'est, ben
qui
oui.
C'est qui qu'annonce?
C'est moi qu'annonce.
C'est toi qu'annonce.
Bah, c'est moi qu'annonce. En même temps, c'est toi qui as choisi le titre, donc.
Ouais, c'est pas faux. Donc, du coup, on se quitte avec le titre At My Mother's du groupe Warsaw Village Band.
Yes, et on se donne donc nous rendez-vous dimanche prochain de 22 à partir de 22h sur l'antenne de Radio Canu. D'ici là, portez-vous bien, faites attention à vous, profitez de vos vacances si vous en avez, et si vous en avez pas, bon courage. Un jour, on tuera le patronat. Voilà, c'était mon espoir de la semaine.
Et bah des moi je dis juste des bisous.
Oui, bien sûr,
la semaine prochaine.
Des bisous quand même.
Ciao. Ciao. Tam się chłopcy schodzą, gdzie co jodzie w cacka.